Amérique en direct de Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en votre compagnie, bienvenue dans l'Amérique et vous. Les résistances des esclaves aux États-Unis, c'est le thème de cette émission. Ici aux USA, le mois de février est dédié à l'histoire des Noirs, c'est le Black History Month, l'occasion de se pencher sur la vie des esclaves africains en Amérique du Nord. Alors sabotage, marronnage, révolte, comment les esclaves se sont organisés pour s'opposer à leur asservissement, quels ont été leurs succès, quel a été l'impact de ces résistances sur l'abolition. Nous en discutons dans ce numéro de l'Amérique et vous. Pour participer en direct, appelez le 001-202-205-2633. Pour les auditeurs qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Résistance d'esclaves aux USA, donc, pour en débattre ce soir, notre invité c'est Ibrahim Assek. Vous êtes historien et directeur académique du musée de l'esclavage à la plantation Whitney, c'est en Louisiane. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir.
Merci beaucoup.
Alors Ibrahim Assek, j'aimerais qu'on commence par les actes de sabotage, puisque c'est un aspect de la résistance auquel on ne pense pas toujours. En quoi consistaient ces sabotages?
Le sabotage peut consister en beaucoup de choses, notamment ce que l'on appelle aujourd'hui dans le monde syndical une grève de zèle. Le fait de travailler au ralenti, mais aussi on a d'autres actes de sabotage beaucoup plus actifs, comme la destruction d'instruments aratoires, mettre le feu à une écurie, ou bien mettre le feu à des récoltes. Donc tout ça, c'est des actes de sabotage qui pouvaient être faits par les esclaves.
Et donc ça avait un impact très important finalement sur les propriétaires.
Mais absolument. Les propriétaires n'avaient aucun intérêt à ce que l'on détruise, comment dirais-je, leur patrimoine, que ce soit des récoltes ou bien des bâtisses, ou bien des animaux. Donc... c'est toujours des pertes. On aboutit à des pertes en cas de sabotage.
Et donc
Je crois que tout maître intelligent devait se prémunir de ce type d'acte-là.
Et vous avez mentionné le syndicalisme, c'est très intéressant. Est-ce que donc le sabotage, c'était une façon un peu de renégocier les conditions de travail finalement pour ces esclaves?
Absolument, cela se comprend. Parce que le maître a toujours intérêt de voir la population servile qui est attachée à sa propriété travailler à plein régime, surtout dans des colonies dans des endroits comme la Louisiane au XVIIIe siècle, un pays de frontières. Donc, il était très facile pour les esclaves de prendre la clé des champs, de disparaître ou enfin, de devenir des marrons. Et surtout en cas de menace de punition. Donc c'est dire donc que le maître a toujours intérêt à négocier avec l'esclave. Il n'était pas toujours tout puissant, surtout ici en Louisiane, comme je vous l'ai déjà dit. Il n'était pas du tout tout puissant. Et très souvent, il y a des situations même que beaucoup ne comprendraient pas. La liberté relative qui était offerte à l'esclave dans un espace frontalier.
Alors, ils n'étaient pas tout puissants, ils étaient même vulnérables, hein, puisque dans ces actes de résistance, les esclaves qui travaillaient dans la maison du maître ont joué un rôle crucial. Ils étaient quand même très très proches des bourreaux et faciles à attaquer.
Oui, absolument. Surtout, quand je dis un espace frontalier, c'est un espace qui est encore très peu humanisé. Je reprends encore l'exemple de la Louisiane que je connais mieux. Si vous lisez par exemple l'ouvrage de Gwanli Middle Hall, Africans in Colonial Louisiana, les Africains dans la Louisiane coloniale. Et elle a prouvé, elle a beaucoup écrit sur les rapports entre maîtres et esclaves dans un espace frontalier où il était beaucoup plus important de survivre que d'accumuler des richesses. Au début, c'était surtout une question de survie. Et c'est la raison pour laquelle le traitement qui était réservé à ces esclaves en Louisiane était relativement différent par rapport aux esclaves, par exemple, qui étaient sur la côte est.
Très bien. Différent, vous voulez dire quoi exactement?
Je veux dire que le traitement qui est fait aux esclaves dans des espaces déjà bien humanisés, bien contrôlés, est toujours différent du traitement des esclaves qui sont dans des espaces frontaliers, c'est-à-dire des espaces qui sont très peu humanisés, pas très bien contrôlés du tout par les colons, et où il était facile aux esclaves de disparaître, donc de devenir marrons, de s'émanciper définitivement. Donc, dans un espace frontalier comme la Louisiane, comme je vous l'ai déjà dit, il était important pour les maîtres de négocier, et surtout dans un contexte de précarité, où il était beaucoup plus important de survivre que d'accumuler la richesse. La richesse vient toujours plus tard.
Alors, ouais. La survie, hein, justement, hein, quand je parlais de la maison du maître, je pensais notamment aux tentatives d'assassinat contre les maîtres.
Ah oui, ça, c'est quelque chose de permanent depuis le début de l'esclavage jusqu'à la fin. Le maître est en danger permanent. Il y a toujours eu des tentatives d'assassinat. Des assassinats qui ont réussi, d'autres qui ont avorté. Il y a tellement de cas de justice par rapport à ces tentatives. Donc c'est l'exemple que j'ai personnellement ici en Louisiane, c'est celui d'un maître qui s'appelait Val Saint-Marmion, qui avait la réputation d'être le maître le plus cruel établi sur le fleuve Mississippi en 1854, quelque chose comme ça. Un de ses esclaves a été porté devant les tribunaux pour avoir tenté de l'assassiner, lui et son commandeur. Et l'esclave a été finalement condamné à mort et pendu devant le tribunal de la paroisse Saint-Jean-Baptiste en Louisiane.
Oui, les traitements étaient bien sûr à la hauteur des inquiétudes des maîtres. Alors, Ibrahim Hatsek, on va prendre un auditeur, on va laisser un petit peu la parole. Et au téléphone, on a Bertin Tomnabel qui est au Tchad. Bonsoir Bertin. Allô? Ah, j'ai l'impression qu'on n'a pas notre auditeur. Alors, on a Osana qui est au Tchad également. Bonsoir, Osana. Mais j'ai l'impression qu'on va pas, on n'a pas beaucoup de chance, soit avec les auditeurs, soit avec le Tchad. C'est pas grave, on a toujours Ibrahim Hatsek avec nous. Donc, Ibrahim Hatsek, on a parlé du sabotage. Parlons maintenant des révoltes, hein, puisque cela constitue quand même une part importante de ces résistances. C'était quand même très risqué. Comment est-ce que les esclaves arrivaient à mettre en œuvre ces révoltes? Visiblement, on a beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Bonjour, Asana. Comment allez-vous?
Oui, bonsoir, madame. Et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, vous avez probablement un commentaire sur ce sujet.
Oui, moi, vraiment, ce sujet me touche vraiment au cœur. Parce que si on essaie de voir le traitement de nos frères africains déportés aux États-Unis, c'est vraiment regrettable. Alors, à ce sujet, nos frères sont traités comme des humains, mais quand ils ont pris de conscience, ils se sont vraiment lancés dans la lutte qui a vraiment payé. Alors, pour ça, j'aimerais poser une question à votre invité. Malgré que nos frères ont contribué au fondement des États-Unis, alors, j'aimerais savoir si ce n'est pas la main-d'œuvre africaine, est-ce que les États-Unis seront ce qu'ils sont aujourd'hui? Et puis je pense de la construction du débit des États-Unis. Si ce n'est pas nos frères africains, est-ce que les États-Unis seront aujourd'hui notre première puissance économique, militaire et même politique?
Alors Ibrahim Assek, vous avez entendu la question, hein. Est-ce que l'apport de ces esclaves africains est suffisamment reconnu aujourd'hui?
Bien, de plus en plus, il y a un travail de mémoire qui se fait aux États-Unis, mais ce pays est vraiment en retard par rapport à des pays comme la France, par rapport à des pays comme l'Allemagne, dans le travail de mémoire, surtout par rapport à l'esclavage des Africains. Alors l'ami qui vient de téléphoner, je crois que c'est un Tchadien, bon, quand je perdais la ligne, c'était un Tchadien qui s'apprêtait à parler. Il a parfaitement raison. Les esclaves africains, les Africains mis en esclavage, ont bâti ce pays. Ils ont construit les bases de l'économie américaine pendant plusieurs siècles. Et l'esclavage était partout. Même dans le Nord, quand ils ont décidé de se débarrasser de l'esclavage, donc de mettre une limite entre des États du Nord où l'esclavage n'avait plus droit de cité et le Sud où l'esclavage était maintenu, mais les Nordistes investissaient dans l'esclavage, ils avaient des sociétés d'assurance, ils fabriquaient des choses qui étaient vendues dans le Sud, notamment pour l'industrie sucrière, ces chaudières qui étaient vendues dans le Sud pour cuire le jus de sucre. Les bateaux à vapeur qui transportaient les esclaves dans le cadre de la traite domestique aux États-Unis, c'était aussi des gens du Nord qui fabriquaient toutes ces choses-là. Ils étaient très bien impliqués dans l'esclavage. Alors, la preuve la plus flagrante, c'est qu'au début, donc après l'indépendance qui a été arrachée donc aux Anglais, les pères fondateurs des États-Unis ont eu de grands débats sur la question de savoir est-ce qu'il faut abolir ou pas l'esclavage. Ils ont eu des discussions très intenses, mais finalement, ils ont décidé de maintenir l'esclavage parce que c'était rentable. Et l'économie des États-Unis était fondée sur l'esclavage. D'ailleurs, les noms les plus célèbres parmi ces pères fondateurs, comme George Washington, premier président, comme Thomas Jefferson, tous ces gens-là étaient des esclaves. Juste, ils avaient des esclaves. Et donc, l'Amérique a continué à perpétuer l'esclavage, et ils sont allés de compromis en compromis jusqu'à ce que cela aboutisse à partir de 1861 par une guerre civile sanglante qui a fait 600 000 morts.
Mmh. Ouais. Alors revenons à ces résistances, hein, puisqu'ils se sont battus, ces esclaves. Et donc tout à l'heure, quand on a été coupé, hein, je vous parlais des révoltes. Et donc c'était, on imagine, extrêmement risqué de se soulever comme ça, en groupe. Comment est-ce que les esclaves arrivaient à mettre en œuvre ces révoltes?
Ben, les révoltes, il y en a toujours eu. Partout où l'esclavage a existé, il y a eu une résistance permanente sous plusieurs formes, mais la révolte, c'est le sommet.
Oui.
C'est vraiment le, comment dirais-je, c'est le zénith de la révolte, le fait de dire non, mais aussi de se mobiliser, de prendre des armes pour les retourner contre les maîtres. Bien sûr, c'était quelque chose de risqué. Parce que les révoltes qui ont réussi sont extrêmement rares. Et les esclaves qui étaient impliqués dans ces révoltes savaient qu'au bout du compte, il n'y avait que la mort. Mais très souvent, ces gens-là ne reculent pas.
Donc c'était
parce
le symbole
même, la misère dans laquelle ils vivaient les poussait à des extrêmes et ils n'avaient plus peur de la mort.
Ouais. Ils voulaient peut-être tout simplement montrer qu'ils n'étaient pas passifs vis-à-vis de leur sort?
Non, ils n'ont jamais été passifs, vous voyez. Malgré la peine qui est infligée à la chair de ces pauvres gens, ils n'ont jamais baissé les bras. La résistance, comment dirais-je, la résistance était permanente dans les plantations partout en Amérique.
Alors, figure très très importante, hein, dans ces révoltes et notamment dans les soulèvements, ce sont les esclaves qui se sont échappés, c'est ce qu'on appelle les marrons. Est-ce que vous pourriez nous parler de leur rôle dans ces résistances?
Les marrons, ce sont c'était des esclaves fugitifs, donc c'était une forme de résistance très répandue aussi. Que ce soit la Louisiane ou tous les autres États où l'esclavage existait, le marronnage a toujours existé. Donc les esclaves s'échappent des plantations et vont vivre dans des endroits reculés, bien boisés, dans les bois, dans les marécages, et ils étaient très mobiles. Si je prends par exemple le cas de la Louisiane que je connais très bien, ce sont des gens qui fréquentaient les plantations surtout la nuit pour chercher à manger, pour communiquer avec leurs femmes, pour communiquer avec les enfants, pour aussi, comment dirais-je, convoyer des nouvelles. On voit par exemple, personnellement j'ai pu constater que lors de la révolte de 1811, ici en Louisiane, la révolte de 1811, la révolte dite de la Côte des Allemands, quelque part entre Nouvelle-Orléans et Baton Rouge, la plus grande révolte des esclaves aux États-Unis donc, s'est tenue dans cette région en janvier 1811, et les Marrons ont joué un rôle extrêmement important dans comment dirais-je, la transmission des mots d'ordre. Ça, c'est évident, c'est vraiment évident. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a des études qui pourraient être faites sur ce plan-là. Chaque fois qu'il y a recrudescence du marronnage, c'est quelque chose qui annonce une révolte.
Donc voilà. Finalement, ils avaient, peut-être que des fois c'était eux-mêmes qui initiaient ces révoltes une fois qu'ils étaient à l'extérieur?
Bon, pas forcément. En tout cas, ils jouaient un rôle extrêmement important, ils tenaient des réunions avec les gens. C'est-à-dire, c'est aussi une, je crois que c'est une stratégie. Il y a certains qui restent sur les plantations et d'autres qui deviennent marrons et qui vont donc de plantation en plantation pour transmettre des instructions. C'est ce que j'ai constaté par exemple en ce qui concerne la Louisiane. Les principaux dirigeants connus étaient restés sur leurs plantations, c'était des commandeurs. Mais on a beaucoup d'autres qui étaient déjà marrons et qui ont contribué aussi à la coordination donc de cette action de révolte qui a eu lieu en janvier 1811.
Alors Ibrahim Aïssek, je vous propose qu'on fasse intervenir un autre auditeur. Au téléphone, nous avons Brahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avez-vous une question pour Ibrahim Aïssek?
Ou
un commentaire?
C'est très bon. Exactement. Il est très bon quand même de se souvenir de ces gens-là qui ont beaucoup fait pour les États-Unis, qui ont trimé. Et par finir aussi, ils se sont révoltés, comme cette classique bien dit. C'est vrai, si dans les champs, certains se sont battus, ainsi, intellectuellement aussi, il y a des leaders africains ou des leaders négros qui se sont révoltés à travers des écrits, à travers des manifestations, il faut rappeler. Je salue quand même tous ces gens-là qui ont milité pour que l'esclavage puisse être aboli aux États-Unis, partout dans le monde. Je dis grand merci à tous ces gens. Merci bien.
Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors Ibrahim Aïssek, un autre aspect ces résistances, et là je vous cite, vous parlez de résistance des âmes. Qu'entendez-vous par là?
Ben, la résistance des âmes, c'est comme en Afrique, dans un contexte colonial, c'est la résistance par des voies non violentes, c'est la résistance que l'on appelle aussi culturelle, parce que l'esclavage, tout comme la colonisation, c'est une entreprise aussi d'aliénation mentale, d'aliénation culturelle. On fait tout pour vous faire oublier, pour effacer votre passé, votre religion, votre culture de manière générale. Alors une fois que les corps sont domptés avec la violence des maîtres, ça ne veut pas dire que la résistance va s'arrêter là. On va continuer à résister en utilisant sa culture. C'est là où les personnes qui sont mises en esclavage, la personne qui est mise en esclavage, regarde son maître et parle silencieusement et lui dit « Ok, tu as le contrôle de ma chair, mais tu n'auras jamais le contrôle de mon âme. Je vais m'accrocher à ma religion traditionnelle, je vais m'accrocher à mes contes et légendes d'Afrique, je vais m'accrocher à ma cuisine africaine, je vais donc m'accrocher à ma culture d'une manière générale. » C'est ainsi qu'il y a beaucoup de faits culturels africains qui ont survécu ici dans ce pays, surtout en Louisiane. C'est dans la cuisine, c'est dans la musique, c'est dans la religion aussi. La Louisiane avait et a toujours ses reines du vaudou. par exemple. Mmh. Je crois que ça aussi, c'est important.
Oui, c'est très important. On essaiera voilà. même d'y consacrer une émission une autre fois, ce qui reste aujourd'hui de l'esclavage. Alors, j'aimerais bien quand même, avant qu'on termine, parler un petit peu de la guerre civile, puisque là aussi, les esclaves ont joué un rôle très très important.
Absolument. Que ce soit, qu'ils soient à côté de leur maître ou bien du côté des forces de l'Union, ils ont joué un rôle extrêmement important. D'abord, il y a beaucoup d'esclaves qui ont été transportés par leur maître. Ils devaient suivre leur maître sur le champ de bataille et servir le maître qui se battait. Certains ont été mobilisés pour lutter à côté des maîtres, mais le plus grand nombre était parvenu donc à passer de l'autre côté pour soutenir l'Union. Par exemple, en ce qui concerne la Louisiane, je crois qu'on considère que pas moins de 75 000 esclaves ont... comment dirais-je, des gens, des esclaves, des hommes noirs, ont pris les armes pour appuyer l'Union.
Oui. Ouais. Et c'était d'autant plus important, hein, puisque la question de l'esclavage était bien au cœur de cette guerre. Donc ceux qui se sont engagés du côté des abolitionnistes, finalement, se battaient pour leur propre liberté.
Absolument, oui. Dans beaucoup de marrons, d'ailleurs.
Oui.
Il y a beaucoup de marrons, donc, quand la guerre civile a éclaté, ils étaient déjà. Donc, ils avaient déjà pris le large, et ces gens-là se sont immédiatement enrôlés dans les troupes de l'Union.
Mais dans une Amérique profondément raciste, quand même, comment étaient-ils traités, ces soldats?
Ben, tant que la guerre se poursuit, bon, je n'ai pas beaucoup de détails à ce propos. Mm-hmm. Je crois qu'ils étaient relativement bien traités. Mais malheureusement, à la fin de la guerre, après une brève période dite de reconstruction, ils ont été remis en esclavage. Le système de ségrégation raciale qui s'est imposé aux États-Unis pendant près de 100 ans, après la guerre civile, c'était de l'esclavage qui ne portait pas son nom.
Oui, l'esclavage qui a
été... d'une certaine manière d'ailleurs, certains disent que c'était pire que l'esclavage. Ouais, avec des milliers de lynchages.
Alors, on approche de la fin et j'aimerais poser cette question pour conclure. Quel rôle peut-on attribuer à toutes ces résistances dans l'abolition? Il y a eu certes une guerre qui a été menée par des gens qui n'étaient pas forcément des esclaves, mais enfin, toutes ces résistances, elles ont dû avoir leur poids quand même.
Oui, en ce qui concerne les États-Unis, le Nord s'est battu contre le Sud pour libérer la main d'œuvre. C'est pas nécessairement pour libérer les esclaves. Mm-hmm. Après la guerre civile, ils les ont abandonnés à leur sort. Et beaucoup sont allés dans le Nord, travailler dans les industries. Mais la libération, l'abolition de l'esclavage, c'est avant tout le résultat de la résistance des gens qui étaient mis en esclavage. L'exemple le plus intéressant, c'est bien sûr Haïti, qui est devenue la première république moderne noire dans l'hémisphère occidental. Et un peu partout dans l'hémisphère occidental, des États-Unis jusqu'en Argentine, les gens sont toujours battus et... Il faut prendre en compte cela.
Et donc, quand on dit les esclaves n'ont pas été libérés, ce sont eux qui se sont libérés, vous approuvez?
Oui, absolument. 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 À un certain moment, on constate que ça ne peut plus continuer, alors on décide d'abolir. Là, la libération des esclaves, c'est avant tout le fruit de leur propre résistance. Tout le reste est secondaire.
Ouais. Eh bien, ce seront les mots de la fin, mais on reviendra très certainement sur cette question. Merci beaucoup, Ibrahim Assek, pour votre analyse.
Merci beaucoup, madame.
Voilà, et merci à nos auditeurs également d'avoir répondu présent. Merci à la production, Sims Loumami, et puis Morgane Guiriec au micro. À très bientôt à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.